ты. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-пала-ту-ти. Часа-рамес, мэра-ла-пала-ла-ты. Караван is coming, all guitars are strumming. And says old Gitano, boy, forget about the bling. Here's a guitar for you, my little chavo. If you slave to kissing, you gotta play this thing. La 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 la, la la pala tute. Just gonna miss, merava pala late. La 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 la, la pala tute. Lord, this kind of love cannot be untrue. I'm a little chavo, but I learned the one thing. Girls, they like the kissing as much as we do. Lela, 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 pala tutti. I'm dying, dying after you. Lela, 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 pala tutti. Girls, they like the kissing as much as we do. Lela, lela.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, là, faut essayer.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés en criant, faut manger, après travailler.
Bonsoir
il est 19h04 et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est l'heure du Canu Info.
Du lundi 7 mai 2018, donc, à la veille du 8 mai. Alors, on commencera par l'international, avec un sujet sur les élections anticipées en Turquie. On ira ensuite du côté de l'Inde et des viols qui ont été commis en Inde ces derniers jours. Ouais. Et on finira à l'international par un point sur les violences intercommunautaires en Centrafrique. On fera ensuite un point sur les différents 1er mai, alors en fait celui de Paris et celui de Lyon. On ira ensuite du côté du fichage des cheminots par la SNCF. Et ensuite on aura un dossier un peu général sur le mouvement dans les universités, celles qui sont encore en lutte aujourd'hui, et ce qui s'est passé à Lyon ces derniers jours et notamment cette nuit. Au local, on discutera un petit peu de la France insoumise et de la fête à Macron. On enchaînera avec un point sur le squat du Prieuré. Et on finira par une grève au collège Scholcher dans le 9e arrondissement. Et nous finirons cette... Tu veux le faire ? Non ? Nous finirons par un dossier, un magnifique dossier préparé il y a un an, sur le 8 mai 1945, puisque ce n'est pas seulement la capitulation allemande, vous verrez, c'est aussi un massacre de l'armée française et de la police française en Algérie. C'est à moi. Donc... on commence par ces fameuses élections anticipées en Turquie. Alors, les élections présidentielles et législatives en Turquie vont avoir lieu le 24 juin. Ces élections sont anticipées un an et demi avant la date fixée initialement. Et elles ont été annoncées par Erdogan le 18 avril dernier en raison de, je cite, « l'accélération des développements en Syrie et de décisions économiques importantes qui devraient être prises dans les prochains mois ». Alors les véritables raisons sont finalement les suivantes. Un, effectivement, la situation économique de la Turquie est problématique. Elle laisse présager une importante crise économique dans les prochains mois. L'inflation est d'ores et déjà particulièrement galopante. Et attendre un an et demi serait un risque important pour Erdogan sur le plan électoral. Et deux, accélérer ces élections, eh bien, cette double élection du 24 juin va s'accompagner de l'entrée en application de la fameuse réforme constitutionnelle qui va conférer au président des pouvoirs exorbitants, en gros, la mise en place d'une véritable dictature en Turquie. Alors, Erdogan espère ici laver l'échec relatif du référendum constitutionnel d'avril 2017, où le oui était passé à seulement 51,4% des voix, c'est-à-dire une majorité très faible, sachant que les médias autorisés étaient massivement pro-oui, et que donc toute cette campagne d'État et médiatique a eu un faible score dans l'ensemble. Il espère être réélu avec un score donc bien plus important. Cette ambition, elle passe à la fois par un contrôle accru du processus électoral et par une alliance inédite entre l'AKP, donc le parti islamo-conservateur d'Erdogan, et le MHP, ce qui signifie Parti d'Action Nationaliste, une formation ultranationaliste d'extrême droite, profondément anti-kurde et anti-européenne. L'intervention en Syrie à Afrin est d'ailleurs à mettre en lien avec ce rapprochement, dont l'aboutissement est le pacte scellé avec le président du MHP le 21 février dernier. Le MHP a massivement soutenu la répression qui a suivi le putsch manqué de juillet 2016, notamment contre les Kurdes. Historiquement, il est issu d'une organisation paramilitaire nommée les Loups Gris dans les années 70-80, qui était à l'époque en relation étroite avec la CIA et qui menait de nombreuses actions et des réseaux clandestins contre les communistes et les groupes ouvriers contestataires. Depuis quelques années, le MHP soutient le discours d'Erdogan contre l'Europe et contre les États-Unis et applaudit la promesse régulièrement réitérée du président de rétablir la peine de mort. Voilà, alors en face, ça s'organise, notamment au sein de la gauche radicale, le HDP, le Parti démocratique des peuples, un parti donc de gauche radicale pro-kurde, mais qui a élargi depuis ses revendications à l'intégralité des habitants de la Turquie, a annoncé la candidature ce 4 mai dernier, donc vendredi, de, alors désolé si j'écorche le nom, Selahattin Demirtas, à l'élection présidentielle. Alors ce monsieur, c'est une figure charismatique du parti, qui est détenu depuis novembre 2016 pour ses activités politiques, comme beaucoup d'autres, dans une prison du nord-ouest du pays. Il encourt aujourd'hui une petite peine de prison, 142 ans de prison ferme, voilà, tranquille. Donc en fait, Demirtas est surtout coupable d'avoir fait de l'ombre au Reis, à Erdogan, et d'avoir retardé ses plans d'instauration d'une présidence autocratique puisqu'aux élections de juin 2015, le HDP a fait un gros score, 13%, et donc une entrée de 80 députés à l'Assemblée nationale, ce qui avait fait perdre à l'AKP sa majorité absolue au Parlement. 45 jours plus tard, la guerre contre le PKK et surtout donc contre les territoires et les populations kurdes était réactivée. Le HDP était radicalement réprimé comme étant l'aile politique du PKK, cette organisation terroriste insupportable pour le pouvoir turc. Et des nouvelles élections avaient eu lieu en novembre, permettant à l'AKP de recouvrer sa suprématie à l'Assemblée. Aujourd'hui encore, 9 députés du HDP sont en prison et 11 des 59 élus au Parlement ont été déchus de leur mandat. Alors, l'objectif du HDP, hein, c'est de faire passer Demirtas au second tour. Hein, ils y croient, visiblement, et empêcher la mise en place de la dictature. Alors, bon, loin de nous, ici, hein, l'idée de considérer que cette participation du HDP aux élections va changer profondément ce qui est en train de se passer en Turquie. On est bien d'accord que seul le mouvement social et ouvrier, par le blocage du pays, la grève générale, entre autres, pourrait permettre d'enrayer les velléités dictatoriales et impérialistes, notamment en Syrie du Nord, d'Erdogan. Mais on peut souligner que cette présentation d'un prisonnier très populaire aux élections du 24 juin est malgré tout un beau pied de nez à Erdogan.
Et désormais, on va parler des viols en Inde.
Oui, on va parler de l'Inde aujourd'hui, de l'actualité internationale. On va aller de l'autre côté du continent. Donc, vous savez, l'Inde s'est secouée par de nouveaux cas de viol et de meurtre d'adolescents. Ce vendredi dernier, deux jeunes filles ont été violées séparément en Inde. La première victime, âgée de 17 ans, a été violée, puis aspergée d'essence et brûlée. L'adolescente souffre de brûlures au premier degré sur 77% de son corps. Elle lutte actuellement pour sa vie, nous informe le site Ouest France. Toujours selon le premier quotidien de la France, la police procède à l'interpellation d'un jeune homme de 19 ans qui habite dans le même quartier que la victime de 17 ans. On peut se demander qu'est-ce qui se passe actuellement dans cette région entre les jeunes garçons, puisque il s'agit d'eux, et les jeunes filles. Parce que qu'apparemment, il y a un véritable souci, puisque le même jour, une autre attaque similaire s'est produite dans le même pays, disons dans ce pays d'Asie du Sud. La deuxième victime est âgée, il y avait une deuxième victime comme je l'ai dit tantôt, la deuxième victime est âgée de 16 ans, elle a été violée et brûlée vive. La jeune fille est du district de Yatra, peut-être je prononce pas bien le nom du district, mais d'où elle vient, c'est Yatra, avait été enlevée de ses parents. Lors de l'opération de l'enlèvement, la famille de la jeune fille assister à un mariage. Après leur retour à la maison, ils constatent l'absence de leur fille. Alors, directement, ses proches s'étaient alors plaints auprès du conseil des anciens du village qui aurait ordonné le vendredi à deux jeunes accusés d'effectuer 100 abdominaux et de verser une amende de 50 000 roupies, soit équivalent de $750. Le suspect aurait roué de coups les parents de la jeune fille et incendié leur maison avec la victime à l'intérieur. Ces drames, ces malaises interviennent à la suite de toute une série d'affaires de violences sexuelles. Selon une source policière, les villageois de la majorité hindoue de la région de Jammu, désolé pour la prononciation de la région, les villageois de la majorité hindoue de la région Jammu ont violé et tué la fillette pour terroriser sa communauté musulmane nomade et les inciter à quitter la zone. Ces derniers temps, il faut rappeler, le gouvernement indien a instauré la peine de mort pour les violeurs des jeunes filles de moins de 12 ans. Il faut rappeler, depuis 2016, 40 000 viols ont été signalés.
Maintenant, nous allons parler du retour des violences intercommunautaires en Centrafrique. En effet, des tirs étaient entendus depuis ce samedi 5 mai opposant les forces armées centrafricaines à des hommes armés venus du PK5 dans le quartier proche de Castor. Mais ces tirs-là s'étaient arrêté en fin de journée. Et là, les tirs à l'arme automatique ont repris depuis hier au PK5 où de fortes déflagrations ont été entendues, ainsi que dans des quartiers proches de Yakité, Castor et quartier Sara dans le 3e arrondissement de Bangui. Des habitants de ces quartiers-là ont pris la fuite et Médecins Sans Frontières a indiqué prendre en charge jusqu'à actuellement 4 blessés. Et dans le quartier de Castor, en représailles à la destruction d'une mosquée, des témoins affirmaient que depuis samedi, des hommes armés incontrôlés venus de PK5 ont tenté de détruire deux églises, et une église protestante et catholique, et ont brûlé des maisons des particuliers. Les forces de sécurité centrafricaines les ont cependant repoussées, selon les témoins. Et en représailles, les mosquées du quartier Govongo et Ngaragba ont été détruites par ces éléments incontrôlés de ces quartiers. La tension est vive actuellement à Bangui depuis la journée de mardi 1er mai, marquée par des violences qui ont fait 24 morts et plus de 170 blessés, dont le prêtre Albert Oumalebaba et un ressortissant burkinabé. Et en fait, ce prêtre, il luttait beaucoup pour le retour de la paix entre chrétiens et musulmans. Et c'est le principal élément déclencheur de ces violences a été en fait l'interpellation par des forces armées centrafricaines le 1er mai au matin de Moussa Empereur, un élément d'une milice de PK5. Dans la foulée, une église le même jour, l'église en fait le même jour, l'église de Fatima a été attaquée par ces hommes venus du PK5, causant la mort de plusieurs victimes dont on parlait tout à l'heure. Et en représailles, malheureusement, deux jeunes Sénégalais ont été atrocement lynchés et brûlés au quartier La Kwanga. En effet, l'attaque de l'église a déclenché une vague de colère à Bangui et fait ressurgir le spectre des violences intercommunautaire à grande échelle dans le pays, rappelant les années 2013-2014. Et ces violences avaient éclaté en effet en 2013-2014 après la descente sur Bangui de la rébellion Sédéka, composée en majorité des musulmans qui avaient renversé le président Bozizé. Et en représailles, des milices anti-Balaka, essentiellement composées des chrétiens et animistes, s'étaient constituées en fait pour combattre la Sédéka, qui menait une politique de terreur dans la capitale. Mais très vite, eux aussi, leur nom s'est agrandi par des badauds et des bandits qui ont fui des prisons lors de ces malheureux événements. Et leur mouvement s'est très vite dévié de son chemin d'origine. Il y a eu après une intervention internationale onusienne et française, la Sangariste à Bangui dans les provinces, ça avait réduit en fait un tout petit peu le niveau des violences, mais ces violences ont empiré depuis les tueries du 1er mai dans l'église de Fatima. C'est ainsi que des groupes armés des arrière-pays se sont ralliés et cherchent actuellement coûte à coûte à rentrer dans la capitale pour déclencher les violences intercommunautaires à grande échelle comme 2013-2014. Et d'autres qui sont sur place actuellement à la capitale font des attaques par moment en tuant ou en détruisant ou en brûlant les églises et les mosquées. Et en effet, l'État ne contrôle qu'une maigre partie du territoire national, tandis que les groupes armés s'affrontent beaucoup dans les provinces pour le contrôle des ressources, notamment du diamant, de l'or ou des bétails. Mais en effet, il y a eu aussi des tentatives de médiation qui sont en cours en Centrafrique actuellement, notamment à travers l'Union africaine qui promet une feuille de route pour la paix. C'est dans ce cadre-là qu'un groupe de facilitateurs avait rencontré ces derniers jours une quinzaine de groupes armés qui sèment la violence dans les provinces et le pays. Mais malheureusement, cette entente n'a tenu que 21 jours. Merci.
Oui, merci. D'ailleurs, la France est toujours présente militairement en Centrafrique, hein.
Ils s'étaient repartis de la Centrafrique, mais là, ils étaient repartis, mais la violence, comme c'était auparavant, la feuille de route, c'était que la violence puisse s'estomper, mais il avait réduit seulement. Les groupes armés, ils étaient encore restés, c'est pour ça qu'elle reprend en fait.
Mais on va parler du 1er mai.
Alors, on va vous parler du 1er mai. Alors, on va commencer peut-être par Paris, alors, puisque nous avons bravé l'A6 pour pouvoir aller à la manif parisienne, hein, pour vous, auditrices et auditeurs. Voilà. Donc, on va vous raconter un petit peu comment ça s'est déroulé.
Moi, j'y étais pas. Je vois pas de quoi tu parles.
Ah, tu étais pas, toi? Non, c'est des gens qui nous l'ont dit, en fait. On n'y était pas. Bon, en gros, le 1er mai à Paris, bon, vous avez forcément entendu parler de ces méchants Black Blocs qui ont fait, en fait, finalement, beaucoup moins de casques, c'est-à-dire de vitrines, de différents magasins que l'année précédente, hein, parce que si on regarde bien, il s'est presque rien passé par rapport à l'année dernière. Il y a eu beaucoup moins de blessés de part et d'autre, hein, mais par contre, ça a fait beaucoup plus de bruit. Alors, pourquoi est-ce que ça a fait beaucoup plus de bruit? Peut-être parce que la différence... C'est que là, sur, mettons, allez, 40-50 000 personnes, presque la moitié du cortège était constituée d'un cortège...
Bigarré.
Voilà, qu'on pourrait dire autonome, c'est-à-dire devant les organisations syndicales, et que dans ce cortège, la plupart des gens d'ailleurs n'étaient pas cagoulés, etc. Et que ce cortège massif, c'est probablement ça qui a le plus fait, en tout cas, peur aux médias et à ceux qui nous gouvernent. Alors, bien sûr, après, il y a eu. Cette histoire du McDonald's, il y a eu cette histoire d'une machine de chantier à la SNCF, mais finalement, qu'on se le dise, ce qui s'est surtout passé derrière, c'est que les forces de l'ordre ont empêché la manif de partir, ont essayé d'isoler ce cortège de tête de 15 000 personnes environ, et qu'ils l'ont fait exploser littéralement, et qu'après c'était un peu la chasse aux gauchistes dans le 5e arrondissement, puis dans le quartier latin.
Et sur Lyon, pour faire une transition rapidement sur ce qui s'est passé à Lyon le 1er mai, donc manifestation relativement classique hein, par rapport à l'année dernière en termes de cas d'effectifs, si ce n'est que la manifestation a pris un tournant un peu différent quand elle est passée à proximité de l'Hôtel Dieu, donc qui, je le rappelle, est un ancien hôpital qui a été reconverti en centre commercial de luxe et en hôtel de luxe et qui a ouvert très récemment. Devant l'Hôtel Dieu, il y a eu une petite action qui a été menée par plusieurs militants, c'est-à-dire redécorer un peu la façade avec de la peinture et notamment retaguer dessus pour montrer à l'opposition par rapport à ce qui est devenu ce lieu et sa réappropriation au profit d'une minorité et de quelques intérêts privés. Et donc c'est une action qui a très peu plu aux flics, mais sur le coup, ils n'ont pas su interpeller qui que ce soit qui était impliqué dans cette action. Et du coup, on a eu droit à des interpellations plus tard, quand la manifestation s'est terminée place Satonnet avec la fête de Radio Canu, justement. Où on a pu voir des gens en marge de ce rassemblement, de la fête, se faire arrêter par les baqueux, assez violemment d'ailleurs, hein, et assez arbitrairement. On a deux camarades en fait qui sont fait arrêter, qui ont passé 48 heures en garde à vue et qui ensuite sont allés directement en comparution immédiate, dont un camarade étranger qui s'est pris une OQTF au passage, en plus de prison avec sursis. Et
ils ont écopé respectivement de 3 et 6 mois de prison avec sursis, ainsi que des amendes et des tiges.
Voilà. Et en sachant qu'un des camarades, un des camarades, lui, est quelqu'un qui finalement, on peut dire, est très peu impliqué dans le mouvement social de manière générale, et en fait s'est fait attraper de manière complètement arbitraire, parce que vaguement il ressemblait à une description qu'avaient les forces de l'ordre. Voilà. Et donc on voit une répression qui est vachement massive aussi à Lyon, autant qu'à Paris, mais qui prend peut-être des formes un peu différentes, mais on y reviendra juste après.
Et ça fait des années qu'il y a le repas de quartier à Place Satonnet de Radio Canu. C'est la première fois qu'il y a une répression comme ça à la suite de ce cortège-là. Je vous invite à aller lire le communiqué de la radio qui se trouve sur le site internet de Radio Canu.
Et juste pour rappel, hein, sur Paris, il y a eu 200 interpellations et 109 placements en garde à vue quand même. Donc ça a été quand même assez massif. C'est pour ça que je parlais de chasse aux gauchistes après que le cortège ait été explosé et la manifestation empêchée. Hein, il y a eu vraiment énormément d'interpellations et d'ailleurs un certain nombre de personnes de tabassées par les flics.
Bon, il n'y a quand même pas eu, pour le moment, la plupart des personnes qui ont accepté la comparution immédiate ont été relaxées. Enfin, la dernière fois que j'ai regardé, d'ailleurs, ils avaient tous été relaxés, ceux qui avaient refusé la comparution immédiate, qui ont accepté la comparution immédiate, pardon. En revanche, je crois qu'il y a déjà 4 camarades qui ont été placés en détention préventive en l'attente de leur procès.
Oui, c'est ça, ouais.
Et il y a aussi pas mal de gens qui sont sortis sans poursuite.
Et sinon, au-delà de la répression, petit point positif en tout cas à Lyon, c'est qu'après le rassemblement a lieu une action de plusieurs personnes encore une fois contre le bastion social, hein, jusqu'à ce qu'il ferme. De toute façon, il y aura des actions et une attaque en règle du bastion social, donc qui a lieu aussi ce 1er mai, parce que le 1er mai, c'est aussi l'occasion de lutter contre le fascisme sous toutes ses formes, qu'il soit fascisme d'État ou le fascisme des groupuscules d'extrême droite.
Et pour continuer avec l'actualité nationale, un nouveau scandale de fichage au sein de la SNCF vient nous rappeler les méthodes de management plus que douteuses de la direction de la SNCF. Donc en effet, la responsable de l'accompagnement managerial, et de l'information interne des conducteurs SNCF de tout le nord de l'Île-de-France a envoyé un petit mail à tous les cadres qui dirigent des unités de production dans lesquelles il y a des conducteurs, donc qui ont chacun sous leur responsabilité une quinzaine de conducteurs de train. Donc elle exhorte dans un mail ses cadres à constituer des listes des agents actifs sur les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire à procéder à un fichage direct de leurs salariés. Donc la SNCF a répondu à cette polémique en déplorant ce qu'elle appelle une initiative locale maladroite et en assurant que ce grand fichage n'a bien sûr aucun rapport avec la grève en cours, dont on sait que, qui plus est, il y a énormément d'informations qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux. Mais ça n'a vraiment aucun rapport avec la grève. Alors, quand on se souvient qu'il y a un peu plus d'un an, en novembre 2016, il y avait un scandale du même acabit avait éclaté, donc des syndicalistes qui avaient retrouvé une liste de salariés accompagnés de commentaires, donc c'était des salariés de la gare Saint-Lazare. Donc ces commentaires allaient de petites remarques personnelles et tout à fait subjectives jusqu'à des réflexions autour de l'engagement syndical ou dans une grève ou une lutte quelconque de chacun des salariés. Donc j'en cite quelques-unes. Il y avait notamment prière au local, vient de rompre, un peu conne, fêtard, un peu instable, racaille bas de plafond, ou voilà, tout un tas de commentaires.
Pas mal, racaille bas de plafond, c'est plutôt sympathique. Hein.
Et par ailleurs, tout un tas de commentaires qui s'apparentent très clairement à de la discrimination syndicale. Alors, ce que démontrent ces histoires, c'est bien qu'il ne s'agit pas seulement d'une lubie d'un ou deux petits chefs ailés, mais bien d'un système de management insupportable qui vise à surveiller et, si besoin, punir les travailleurs qui rentreraient pas assez dans le rang, que ce soit par leur mode de vie ou leur engagement politique. Il s'agit donc toujours in fine de récolter le nombre le plus important possible d'informations sur les salariés, de sorte à s'en servir contre eux à tout moment et les rendre bien dociles. En tout cas, on voit bien que la direction de la SNCF veut s'immiscer dans tous les aspects de la vie de ses employés et que ça sent pas très bon.
Et on va encore parler répression, et j'ai l'impression qu'on parle de ça tout le temps en ce moment. C'est assez terrible, mais c'est triste à dire. Mais
c'est peut-être un indicateur.
C'est un indicateur, je pense, oui. Alors moi, je vais parler tout d'abord à Lyon. Enfin, je vais parler des mobilisations étudiantes et de la répression qui s'abat, qu'elle soit policière ou celle des présidences d'université. Donc, parler rapidement déjà du cas de ce qui s'est passé à Lyon 2 ces dernières semaines. Donc depuis plusieurs semaines, c'est la confusion qui règne quand même à l'université de Lyon 2. Le mouvement étudiant qui est toujours debout malgré tout les différents obstacles qu'il a pu rencontrer à Lyon, et Dieu sait ce qu'il a pu rencontrer, il continue malgré tout à perturber le fonctionnement de l'université. Désormais, ça fait plus d'un mois qu'il n'y a plus aucun cours qui a été tenu à Lyon 2. Et à plusieurs reprises, donc, on a pu voir aussi des assemblées générales qui sont tenues à plusieurs milliers de personnes. Mais malgré tout, on a pu voir en face la présidence qui a continué d'affirmer de manière assez forte sa volonté de maintenir les examens. Et du coup, les étudiants et étudiantes, eux, mobilisés, ont exigé la suppression des partiels pour pouvoir justement se mobiliser à la hauteur des enjeux actuels qui sont sauver l'université publique, mais aussi lutter contre la répression de manière généralisée, contre la casse du service public, contre la réforme de la SNCF, etc. Bon, bien évidemment, Sa Majesté Macron l'a exigé, il n'y aura pas d'examen au chocolat. Alors, de plus en plus agacée, la présidente, elle a depuis quelque temps beaucoup plus de plus en plus de mal à tenir sa pseudo-position conciliatrice. Hein. N'oubliez pas que Nathalie Dompnier, donc la présidente de Lyon 2, s'est fait élire...
Est une traître, pardon.
Tu peux dire social traître, oui. S'est fait élire sur des positions... Nous ne ferons, je ne ferai jamais appel à la police sur le campus, car ses prédécesseurs avaient la réputation d'en avoir un petit peu abusé.
Oui, alors notamment, juste après une période où le collectif des étudiants étrangers sans papier et solidaires de Lyon menait une campagne pour les inscriptions avec donc Jean-Luc Maillot, le président précédent de l'université, qui avait fait intervenir les forces de l'ordre sur une occupation des bureaux de la direction, alors même qu'il était conscient qui avait des sans-papiers. Nathalie Dompnier avait fait campagne, carrément sa campagne, notamment autour de ces questions-là, en affirmant que jamais, au grand jamais, elle ferait des choses pareilles. Quoi.
Oui,
et elle a gagné aussi grâce à ça.
Oui, oui, et c'est comme ça aussi qu'elle se met toute une partie des personnels dans la poche, qui soient enseignants ou administratifs, et en tenant cette fameuse position sur la sélection qui est très ambiguë et en fait qui s'apparente plus à du vent, c'est-à-dire qu'elle ne s'engage à ne sélectionner que dans 4 filières l'année prochaine, c'est-à-dire enfin, des filières en tension. Donc on a psycho, on a droit, on a STAPS, et la 4e, je viens d'avoir un trou de mémoire, je suis désolé, bon tant pis, mais en même temps donc s'engager à ne pas sélectionner dans la plupart des filières, mais en même temps condamner la mobilisation dans sa forme actuelle, c'est-à-dire contre le blocus.
Qui plus est, cette histoire de sélectionner uniquement dans les filières en tension, en réalité c'est du vent, parce que dans les autres filières, il n'y a effectivement pas besoin de sélectionner, puisqu'il y a assez de place.
Oui, puis c'est un engagement, voilà, c'est un engagement vraiment bidon qui nie la dimension nationale de la réforme et de la lutte à mener aussi également. Et du coup, elle a eu de plus en plus de mal à tenir cette position face à la mobilisation des étudiants et des tensions commençaient à émerger. Et on a eu une véritable rupture le mois dernier en avril lorsque les occupants de l'occupation, enfin les occupants de l'amphi Fugier se sont fait expulser manu militari le matin. Juste avant les vacances, par les CRS. Et à ce moment-là, on a même eu un camarade présent, donc qui a été blessé à la tête par les coups de tonfa et qui a été placé en détention préventive à Corbas, puis qui a écopé en comparution immédiate de 4 mois avec sursis. Depuis, bon, l'équipe présidentielle, elle n'hésite plus à faire appel aux forces de l'ordre pour bloquer l'accès à l'université aux étudiants. Hein. Elle ne veut plus laisser un seul étudiant rentrer dans l'université pour se mobiliser, et organiser des assemblées générales, chose que jusqu'alors elle tolérait et elle acceptait. Et ce matin, on a atteint un point culminant dans la répression menée par la préfecture et par la présidente de l'université. En fait, ce matin, à 2h du matin, donc une petite équipe s'était lancée à Bron pour commencer à préparer le blocus du campus des Portes des Alpes. Parce qu'en fait, ce jour-là devait se tenir notamment des commissions Parcoursup, donc sur la manière dont devait se faire la sélection dans ces fameuses filières en tension. Et en fait, à 2h du matin, rapidement, les camarades sur place ont pu apercevoir des véhicules assez suspects, civils. Et il s'est avéré que c'était la BAC. Et très rapidement, ça leur est tombé dessus. Ils se sont fait une bonne partie. Sept des camarades se sont fait interpeller, enfin, se sont fait courser par les BACEux avec des chiens, hein, évidemment, en plein milieu de la nuit, sur le campus. Voilà, qui est super rassurant, se faire courser par des clébards.
C'est clair.
Et on a eu 7 interpellés. Aujourd'hui, en ce moment, on a toujours au moins 4 ou 3 personnes en garde à vue. Les infos sont très peu claires pour le coup. Mais visiblement, les BACEux auraient été appelés par la sécu de la fac, qui auraient aperçu des gens rentrés sur le campus et les voyant commencer à bloquer, auraient appelé la BAC.
Donc ils sont complices, c'est ça ?
Oui, bah, ils sont complices. Clairement, pour le coup, la présidence a fait appel à la police. Et j'y viens justement, le campus des quais, donc l'autre campus de Lyon 2, ce matin, et toujours actuellement, est complètement bouclé par la police, encerclé. On avait près à au moins 5 camions de flics qui étaient présents, plus la BAC, et qui empêchaient les étudiants de rentrer et qui filtraient, en fait, et laissaient rentrer que les personnels administratifs. Mmh. et voulait donc empêcher les étudiants de mener une AG à l'intérieur de la fac. Et on a pu apercevoir, on aperçoit une montée en puissance quand même aussi et en tension vis-à-vis de la présidence, où elle fait de plus en plus, une logique de défiance. La présidence a complètement refusé, alors qu'au début, c'est elle qui demandait de voir une délégation d'étudiants. Et finalement, elle s'est dérobée et elle a refusé de les accueillir. D'un autre côté, on pouvait voir du personnel administratif, je parle particulièrement de la sécurité de Lyon 2, qui commence à devenir de plus en plus menaçante vis-à-vis des étudiants mobilisés en menaçant certains verbalement. Et à côté, on pouvait voir aussi la violence du côté, au moins symbolique, mais aussi physique, du côté des flics, au moins les menaces de violence, où on pouvait voir des commissaires ou des flics venir nous empêcher de tenir une AG, ne serait-ce que le quai, en nous menaçant de nous gazer et nous virer, car on n'avait rien à foutre là, alors que c'est eux qui bloquaient l'université. Et bien sûr, on voyait cette espèce de paternalisme, on se fait appeler gamin, mon garçon, tu vas pas faire le malin, etc., évidemment. Ce qui me permet aussi de donc cette intervention de flics et ce flicage à Lyon 2 qui est quand même incroyable à une semaine du début des partiels, donc on peut vraiment s'attendre à ce que les partiels soient faits sous surveillance policière à Lyon 2. Et bien à Grenoble, on a eu la même chose, les partiels ont commencé sous surveillance policière, sauf que rapidement ça a dégénéré. Les étudiants mobilisés qui s'opposaient à la présence des flics sur le campus et à la tenue des examens se sont fait gazer et matraquer très violemment. Je vous invite à regarder sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui tourne, elle parle d'elle-même quoi. Et finalement, les examens n'ont pas pu se tenir, les étudiants et les enseignants ont refusé de tenir les examens dans ces conditions. La mobilisation ailleurs, elle continue aussi à Nanterre, qui a décidé de bloquer du blocage illimité du campus et de la non-tenue des examens qui doivent être délocalisés dans le Val-de-Marne. À la Sorbonne, le président essaie lui aussi, avec de basses manœuvres, de décrédibiliser la mobilisation en organisant un vote électronique.
Technique classique des présidents d'université.
Pour casser et invalider les tentatives de blocage. Et à Nancy, niveau répression, on a pu voir quelque chose aussi d'assez fort. On a à peu près 6 étudiants qui sont en correctionnel pour avoir tenté de bloquer un partiel, inculpés pour dégradation et violence sur agent. Donc ils risquent vraiment pris au moins de la prison avec sursis. Donc on a une répression assez ouf sur le mouvement étudiant en ce moment. Pas que sur le mouvement étudiant, on l'a bien vu avec la SNCF juste avant, mais on a toujours plus de flics pour la moindre petite initiative, quelle qu'elle soit. Ce qu'on peut pas dire non plus qu'à Lyon, il y ait énormément d'étudiants, surtout en ce moment qu'on est dans une période de creux avant les partiels, et pourtant on se retrouve avec plus de flics que de manifestants, quoi. Toute initiative est
systématiquement réprimée, ouais, ou presque.
Ouais, ouais, elle est écrasée dans l'œuf. Ouais. Hein,
alors, il y a même des chemins.
Vas-y. Je me demandais alors à ce niveau, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de la mobilisation, vu qu'elle s'est un peu partout
En fait, moi je trouve pour eux c'est plus contre-productif qu'autre chose d'agir de la sorte. Hein. Vraiment, arrêter des gens en plus qui sont pas juste des étudiants, pas des militants purs et durs.
Pas des agitateurs professionnels, tu veux dire ?
Non, pas des agitateurs professionnels pour le coup. Enfin, en fait, s'il y en a, mais...
Non, mais vu que certaines facs continuent à voter le blocage illimité, ouais, à bloquer des partiels, non, la mobilisation n'est pas terminée, même si c'est bien évidemment plus compliqué quand les partiels arrivent.
Ouais. Quand il y a plein de keufs partout.
Quand, contrairement à il y a 10 ans ou 8 ans, quand il y avait des gros mouvements étudiants, il y a des keufs effectivement partout, et de la répression à l'initiative des directions d'université, et que le pouvoir...
Et Nathalie, ni oubli ni pardon. Hein.
T'inquiète, on s'en rappellera, ça, il n'y a pas de problème.
Pas de souci.
Sur la répression aussi, il y a quand même une enquête qui a été ouverte. Alors je crois que ça doit être du côté de Rennes, ou, j'ai un doute, ou de Lille peut-être.
C'est pas grave, c'est pareil.
une marionnette à l'effigie de Macron qui a été...
C'est ça, à Nantes.
À Nantes.
Ouais, mais c'est pas loin, Lille-Nantes en fait.
Exactement, j'étais dans le...
Sonore la Loire, pour nous, c'est pas
oui, c'est une marionnette à l'effigie de Macron, donc, qui a été pendue, puis brûlée. Et donc c'est un crime de lèse-majesté, évidemment. Donc il faut punir les auteurs de ce crime. Ouais, voilà, donc il y a une enquête lancée.
À la ZAD, il y avait un grand Gérard Collomb qui avait été mis au bûcher. Donc On attend de voir si le ministre de l'Intérieur porte plainte. Il a porté plainte aussi pour diffamation récemment sur
un truc.
non, sur la mise en cause de.
Non mais Colomb, il en a marre de
des services pour... de l'État et du coup je pense qu'ils sont chauds là de.
Ah mais il en a marre de passer
envie
pour
de se faire diffamer.
Donc ces figurines brûlées en fait nous rappellent donc cette célèbre fête du carnaval et qui a continué à se reproduire. J'ai l'impression que ça on va ce mandat va être un carnaval permanent et samedi on avait donc droit à une fête et il paraît donc que c'était la fête à Macron. Mais une fête c'est quoi? C'est une période de réjouissance collective destinée à célébrer quelque chose ou quelqu'un. Il n'y a pas de fête solitaire, une fête est limitée dans le temps. Les funérailles ne sont pas considérées comme une fête. Donc à partir de cette définition que vous trouverez communément sur Wikipédia, on peut se poser la
question. Sur ce sûr, sur merci.
On peut donc se poser la question sur les événements de ce week-end et s'il s'agissait vraiment de faire la fête à Macron et non pas plutôt à ce que la France insoumise était de sortie plutôt pour célébrer l'arrivée de son nouveau prophète. Il n'y avait donc qu'un pas à franchir. Donc dans cette logique permanente de distinction, la France insoumise a continué en fait à diviser le camp social comme elle l'a très bien fait dans les derniers mouvements sociaux. Ainsi, dans cette logique continue de sous-mariner, ils nous ont fait, pour essayer de nous faire croire qu'il s'agissait de quelque chose de nouveau, la France insoumise doit envoyer en première ligne, tel Poutine échangeant de place avec son premier ministre le temps d'un mandat, son clown national, François Ruffin. Alors, Alors car oui, il faut le dire, en fait, une triste nouvelle que vous avez appris aujourd'hui, la réforme du rythme scolaire a amené aussi d'autres pertes. Ainsi, les enfants ne peuvent plus aller au cirque. On a donc appris qu'aujourd'hui, à cause de ça, les enfants en plein d'air avaient fermé. La France insoumise s'est donc tout naturellement dévouée pour les remplacer. Ainsi, alors qu'à Paris, Mélenchon arrivait tel un empereur sur son bus impérial, ce qui résume absolument tout son programme, nous avons pu voir à Lyon en fait quelque chose qui ressemblait quand même très très franchement au jeu du cirque. Donc, ayant eu la chance de recevoir le détail du programme, je vais pouvoir vous lire quelques événements. À 14h30, l'après-midi commençait par des improvisations et des jeux de rôle. À 15h30, on avait une fanfare. À 16h30, on avait un atelier de clown avec des origamis de trate usagés. On avait quand même, parce qu'il est vrai qu'il fallait officiellement quand même rappeler qu'un jour, à un moment donné ou un autre, on parlait
de politique. Tu me diras, franchement, les tracts de la France insoumise, vaut mieux en faire des origamis. Hein.
Ah oui, non mais on est d'accord, au moins ils auront servi à quelque chose, ça, on est d'accord. Et toutes leurs couleurs, ça peut faire des jolies fleurs. Donc de 18h à 19h, il y avait une heure, mais pas une minute de plus, qui était prévue pour faire une AG politique. Donc je vous laisse imaginer comment on construit la révolution en une heure. Et après, des 19h arrivant, j'imagine que l'autorisation préfectorale se finissait. Et ben, nous étions tous invités à aller finir la soirée ou à l'Alternatibar. Donc c'est clair que avec un tel programme, la révolution est en marche. Il faut revenir en fait sur comment cette mobilisation s'est passée à Lyon. Il y a quelques semaines, la première AG du 5 mai s'est tenue sur la place Guichard qui, on pourra le rappeler, était la place où a eu lieu Nuit Debout à Lyon. Donc, comme je disais, un certain nombre d'entre nous, c'est donc chouette, ça recommence avec un peu de chance, même si ça n'avait pas servi à grand chose, on s'était quand même bien marré pendant quelques semaines. Donc, voyant ça, un certain nombre de militants ont essayé de se réapproprier l'événement et sont venus participer à cette première journée, ont essayé de mettre en place un groupe qu'ils ont appelé Lyon en lutte, qui avait donc pour but en fait, d'être la déclinaison locale de cette pseudo-fête à Macron. Sauf que le parti, le grand parti, ne supportant pas cette prise de liberté, on finira rapidement par apprendre que ce groupe était mort-né, que la France insoumise, ayant révélé son vrai visage, avait déplacé officiellement l'événement sur la place de la mairie républicaine et non plus devant la Bourse du Travail, pour évidemment en prendre absolument tout le contrôle et couper court à toute forme de contestation. Ainsi, la France insoumise continue dans cette logique de division en promettant du pain et des jeux, tout en réprimant toute tentative de reprise en main populaire en fait, de ces événements. Camarades insoumis, il est vraiment temps de franchir le Rubicon, libérez-vous de vos chaînes. Et avant d'essayer de tuer le dieu Macron, débarrassez-vous de votre empereur et on verra après.
Oui, tout à fait. Pardon, excusez-moi, je... sur autre chose.
Je me demande d'égarement.
on voulait juste...
Temps de revenir sur 2000 ans d'histoire, c'est normal.
C'est, ben, je, quand je pense à Mélenchon, je vis dans mes rêveries.
Tu ne regardes pas.
S'il vous plaît.
Cette émission est autorisée pour les moins de 18 ans. Vous êtes bien sur Canu, Radio Canu, Canu Info, 102.2.
Non, du coup, on voulait juste soutenir les copains qui habitent au Prieuré, qui est un squat qui se situe rue Dinkermann, dans le 6e. Donc, c'est un bâtiment, ils sont dans un bâtiment qui appartient au foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Et leur bâtiment est désormais expulsable. Alors, pour la petite histoire, le foyer Notre-Dame des Sans-Abris avait au départ promis la signature d'une convention d'occupation avec les habitants du lieu. Et finalement, sous les pressions notamment de la mairie du 6e arrondissement, ils ont complètement annulé cette procédure au profit d'une expulsion immédiate, sans même prévenir les habitants. Donc voilà, on peut déplorer le fait qu'une association qui est censée mettre les gens à l'abri se retrouve dans cette situation-là. Il faut rappeler que peut-être que ces associations défendent pas forcément les intérêts qu'on croit et qu'en tout cas, elles sont capables de se coucher devant n'importe quelle institution dès lors qu'on leur demande de faire même, y compris les trucs les plus horribles, comme mettre des gens à la rue.
Ah bah sinon, goodbye les subventions. Hein.
Exactement.
Ouais, il faut rappeler qu'il y avait quand même beaucoup de familles qui habitaient dans ce bâtiment et c'est normalement la raison d'être de foyer Notre-Dame de son abri, de protéger ces familles. Mais bon, c'est pas grave.
Du coup, voilà, on voulait soutenir les copains qui vivent là-bas et qui sont menacés d'être mis dehors et un petit peu diffuser cette information sur le foyer Notre-Dame des Sans-Abri, qui est quand même, du coup, qui sont pas nos copains.
Puis d'expérience, juste, je me permets. Le foyer, enfin Notre-Dame des Sans-Abri, pour avoir vécu avec l'Amphizède, on a pu le voir quand il y a eu le problème d'incendie et le gymnase, l'occupation du gymnase. Donc c'est eux qui s'occupaient de la gestion, qui était l'asso, qui était délégué pour gérer le gymnase. Bon, on pouvait voir quand même que c'est un truc fait de manière quasiment industrielle, en fait, où ils ont l'habitude, c'est tout calibré. Et là, ils se sont retrouvés face à des gens qui ont l'habitude un peu de s'organiser par eux-mêmes, parfois. Et alors, ça a créé vraiment un moment de confusion plus totale sur les manières en fait, où ils voulaient leur imposer de manière autoritaire des manières, certaines manières de fonctionner. Et ça n'a pas marché, quoi. Donc, on voit, c'est de l'industrie de l'humanitaire et les dérives, ce genre de dérives, ça en fait partie.
Alors, au local, on continue avec une petite brève sur une grève qui a débuté ce lundi matin au collège Scholcher, j'espère que je le dis bien, ou Scholcher.
A priori, non.
C'est S-C-H-O-E-L-C-H-E-R, je vous invite à essayer de le prononcer.
Pour le Scrabble, ça voilà. Fait plein de points.
C'est donc, en tout cas, c'est un collège qui est dans le 9e arrondissement.
Les noms propres sont interdits au Scrabble.
Et qui, ce collège est en crise depuis plusieurs mois. Les personnels qui sont, donc, en tout cas pour la majorité enseignante, ont décidé de se mettre en grève. Ces personnels sont visiblement très impliqués dans ce collège qui est un REP plus, hein, donc un collège classé entre guillemets difficile. Ils sont confrontés à des prises de décision non concertées et à une attitude oppressante de l'administration et de la direction. Cette situation empire depuis des années et elle a dissuadé beaucoup de profs de toute initiative. Les conditions de travail ont été énormément dégradées et ont provoqué de nombreux arrêts maladie. Certains profs dont la situation est particulièrement difficile se sont même vus proposer de la part du rectorat un changement d'établissement. Mais le dialogue est bloqué, et avec la direction, et avec le rectorat. Trois personnes sont aujourd'hui arrêtées pour des raisons de pression au travail, d'où le démarrage de cette grève. Ce que demandent aujourd'hui les grévistes, c'est une médiation de l'inspection académique pour intervenir directement dans l'établissement entre eux et leur direction, visiblement, qui fait là donc la sourde oreille depuis beaucoup trop de temps. Donc courage à vous, les grévistes, lâchez rien, et on suivra de près cette grève, et s'il y a besoin de soutien, on viendra vous soutenir.
Et comme c'est...
Oui. Et juste un petit point, une petite brève rapidement sur... vous avez sûrement entendu parler de Moussa, qui est un réfugié guinéen qui habite à Nîmes jusqu'à récemment, qui a reçu une OQTF et en fait qui a refusé à nombreuses reprises d'être expulsé dans son pays en Guinée parce qu'il est en danger de mort à cause de son orientation sexuelle, car il est homosexuel. Il l'a vu et c'est ce qui l'a forcé à quitter la Guinée. Son compagnon se faire assassiner sous ses yeux, brûlé, immolé par le feu, immolé, oui. Je sais pas pourquoi on dit immolé, bref. Et récemment, ils ont tenté de l'expulser depuis Lyon, puisque toutes les tentatives dans le sud de la France avaient échoué pour le moment.
Notamment grâce à la mobilisation aussi la résistance de Moussa, qui probablement n'a pas très envie de mourir.
Et de pilotes d'avion qui ont refusé de décoller aussi.
Les deux ont encore été au rendez-vous l'autre jour, donc, car il y a eu mobilisation et Moussa a visiblement refusé de manière assez conséquente, assez forte, l'embarquement. Et il est passé en comparution immédiate l'autre jour et il a exigé le report de son jugement et la juge a, elle, jugé qu'il ne représentait pas assez de garanties et donc l'a mis en détention préventive à Corbas
jusqu'au 12 juin.
Une maison d'arrêt.
Alors là, on n'a pas son numéro d'écrou, on ne l'aura pas tout de suite, mais je pense qu'il sera bienvenu de lui envoyer des mandats quand on l'aura. On le communiquera ici et voilà, de faire tourner l'info un peu. On rappelle qu'en cas d'expulsion, si vous êtes passager d'un vol dans lequel on tente d'expulser quelqu'un, vous pouvez vous y opposer en refusant de vous attacher, en restant debout, en interpellant les autres passagers, et que ces gestes-là, ils peuvent sauver des vies. Donc n'hésitez pas à faire de même si vous vous retrouvez dans cette situation.
Et exiger du commandant de bord qui refuse de décoller avec quelqu'un qui se fait expulser.
C'est très difficile.
Ça traîne tout ça. Et j'aimerais juste donner une dernière information au niveau de l'Injada, c'est que mercredi à 15h30 se tient une manifestation lycéenne et étudiante au départ de la place Carnot jusqu'à Guichard. Donc venez en nombre, on a besoin de faire pression, notamment par rapport aux événements de cette nuit.
Et demain à 10h30, à 14h, non, à Perrache, il y a à 14h à Perrache, il y a un départ en manifestation appelé par les cheminots, puisqu'ils recommencent la grève dès ce soir jusqu'à mercredi soir. Donc voilà.
Ils invitent également à se rendre à leur assemblée générale mercredi matin à 9h sur n'importe lequel des sites pour ensuite aller à une action pas du tout mystérieuse. Si vous cherchez, vous trouverez très vite. Et du coup, même si on n'a pas du tout le temps, nous sommes donc le 8 mai demain.
Nous sommes le 7 mai aujourd'hui, mais demain nous sommes le 8 mai. Et contrairement à vos cours d'histoire-géographie, vous allez l'entendre, non, le 8 mai n'est pas que la capitulation allemande.
C'est aussi le massacre de centaines d'Algériens par l'Empire français, le jour même de la capitulation allemande. Et l'an dernier, on avait fait un magnifique dossier animé par de magnifiques animateurs.
N'est-ce pas ? Nous deux, ouais, c'est vrai.
Et du coup,
Je vous incite à l'écouter et envoyer un mail pour nous remercier d'ailleurs de notre existence. N'hésitez pas.
Je vais commencer moi maintenant.
Du coup, voilà, comme c'est pas de l'actualité brûlante, le 8 mai 45, on a un peu fait les flemmards et on va rediffuser ce dossier. Mais il n'y a pas grand chose qui a changé depuis. Hein.
Non, c'est le même massacre.
La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est.
Et pour la première fois, le cri des sirènes devient un chant. Et les cloches de tous les clochers s'ébranlent pour un nouveau Noël. La naissance d'une nouvelle paix pour les hommes de bonne volonté. Et une sorte de passion commence à animer la ville. Il n'y aura jamais assez de drapeaux, ni assez de joie, ni assez de cloches, ni assez de ciel.
Et non, nous n'avons n'allons pas fêter la capitulation allemande, ni la belle victoire de la France, celle-là même qui a collaboré avec le régime nazi de Vichy jusqu'à Bordeaux. Et non, parce que pendant que les Français se réjouissent en Algérie, l'armée française commet un des pires massacres de son histoire coloniale. On a donc voulu vous redire ce soir un peu cette histoire oubliée que les manuels de l'éducation nationale et ses profs aux ordres éludent le plus souvent. On a voulu aussi rappeler que si la guerre était finie pour les uns, elle devait prendre une autre forme pour les autres et que nous, on est plutôt du côté de cela. Alors on va revenir un peu plus en détail plus tard sur le déroulé de ce 8 mai 45 en Algérie pour dresser un tableau rapide. En fait, à l'annonce de la capitulation allemande, des milliers d'Algériens sortent dans la rue pour rappeler leur désir d'indépendance et avec l'espoir que la fin de cette guerre leur ouvre de nouvelles perspectives de libération. Et c'est dans l'Est algérien et particulièrement dans les villes de Sétif, Guelma et Kerata que ces manifestations spontanées seront le plus durement réprimées. Donc les chiffres sont très disparates, hein, mais on situe vraisemblablement autour de 40 000 morts pour ces quelques jours de mai 45 où les Algériens ont cru pouvoir partager la victoire. On va écouter tout de suite Kateb Yassine nous parler du contexte dans lequel interviennent ces massacres et donc... Tu vas nous parler de Kateb Yassine.
Kateb Yassine, oui, introduire un peu ce bonhomme, puisque c'est quelqu'un de bien, c'était quelqu'un de bien en tout cas. C'est un romancier, dramaturge, visionnaire algérien, et avant tout un poète rebelle. Il est né à Constantine, en Algérie, en 1929, et en 1945, et notamment en mai 1945, il a 15 ans, et il participe au soulèvement populaire du Constantinois pour l'indépendance. Il est arrêté à Sétif et incarcéré durant 3 mois à la suite de la répression. Et cette date du 8 mai 45 marquera à tout jamais l'existence, l'engagement et l'écriture de Kateb Yassine qui poursuivra notamment en France son engagement politique contre la colonisation, le néocolonialisme et la dictature post-indépendance qui n'a cessé de spolier le peuple algérien donc jusqu'à 1989, date à laquelle il décède à Grenoble. Donc on écoute Kateb Yassine sur le contexte algérien en 1945.
La guerre, c'est le rationnement. Tout était rationné, tout était au marché noir. Il y avait la famine. Je ne sais pas si on imagine vraiment ce que ça veut dire la famine. Moi j'ai vu de mes propres yeux un homme mort de faim à ce type dans la rue. Et il était à moitié nu parce qu'on ne trouvait même pas de quoi s'habiller non plus. On ne trouvait strictement rien. C'était la misère la plus noire. Il y avait d'ailleurs, la misère amène d'autres choses, des épidémies par exemple. Il y avait une épidémie de typhus terrible au village où j'étais, près de Sétif. Enfin, les gens allaient au cimetière plusieurs fois par jour. On mourait par famille entière, parce que toutes les familles étaient décimées. Et vraiment, c'était une épidémie qui a fait beaucoup, énormément de victimes. La misère, bon, ces épidémies-là, et puis tout d'un coup, l'annonce d'une victoire devait se concrétiser par un changement. Une grande espérance, c'était de voir l'Algérie se libérer en même temps que la France et établir avec elle d'autres liens que les liens coloniaux.
Alors, on va, avant de revenir sur ces événements du 8 mai 1945, faire un bref retour historique sur ce qu'est l'Algérie. Car pour comprendre ce 8 mai 45, pour comprendre cette dite guerre d'Algérie qui ne commence finalement pas en 1954, avec ses échanges de coups de feu et l'armée française, tout commence, la résistance armée du peuple algérien commence dès le début de la colonisation française, lors du débarquement des troupes royalistes du monarque absolu Charles X, le frangin de Louis XVI pour la petite histoire, en 1830. Cette première grande phase de résistance menée par un certain Abdelkader, unificateur des forces algériennes, ne s'achève qu'en 1847 avec la reddition de ce dernier, quand les dernières poches de résistance, notamment dans les montagnes kabyles, sont écrasées dans le sang. En 1848, l'Algérie est officiellement déclarée territoire français. Depuis lors, les insurrections, locales ou régionales, n'ont jamais cessé. De 1850 à 1870, par exemple, de nombreuses insurrections éclatent dans les Aurès et en Kabylie, réprimées dans le sang. La famine ravage l'Algérie entre 1866 et 1868.
Famine organisée par l'armée française.
En 1871, c'est le début de la révolte kabyle des frères Mokrani en mars, écrasée en mai. Près de 500 000 hectares sont confisqués aux Algériens et attribués aux colons. Alors, dans les années 1890, il y a un certain Jules Ferry qui fait adopter le code de l'indigénat et qui instaure un régime juridique spécifique pour les Algériens musulmans et l'Algérie est entièrement intégrée à la France. La nationalité française est accordée aux descendants européens présents en Algérie, mais pas aux musulmans. En 1912, les musulmans sont astreints au service militaire.
entre 1914 et 1918, 25 000 Algériens musulmans meurent pour les beaux yeux de la France, pendant qu'en 1916, Constantine se révolte. Dans les années 20, dans les années 30, des mouvements indépendantistes se structurent, notamment menés par un certain Messali Hadj, et on reviendra sur ce bonhomme, tous interdits et dissous par les gouvernements français, y compris par un certain Front Populaire. C'est dans ce contexte que débute la Deuxième Guerre mondiale.
Et comme on l'a entendu dans l'extrait donc, de Katabi Hassine, le quotidien des Algériens au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est la famine, le chômage et la misère. Donc en plus de la guerre et de la sécheresse, les colons sont appropriés les meilleures terres. Donc les récoltes déjà maigres sont de toute façon pas redistribuées. Le contexte est extrêmement tendu. Il n'y a aucune place pour les velléités indépendantistes au regard de la situation internationale. Les migrations vers la métropole sont interdites, hein, on ne va quand même pas accueillir la misère qu'on sème. Et en Algérie, la pénurie est encore plus importante qu'en France, et la disette, elle touche plus particulièrement les populations musulmanes. Dès 1941, il y a des mutineries de soldats algériens qui sont également violemment réprimées. Dans la population, si en France la collaboration est plutôt bien assumée, en réalité la population algérienne, elle refusera bien souvent de livrer les juifs d'Algérie. Et environ 150 000 Algériens s'engageront aux côtés du général de Gaulle pour les campagnes d'Italie et d'Allemagne, c'est-à-dire pour sauver la France du péril fasciste. Alors comme ça a été le cas pendant la Première Guerre mondiale, c'est les populations colonisées qui vont servir de chair à canon.